Et bien, nous entrons tout de suite dans la deuxième phase de cette conférence de presse, à savoir la séance des questions et réponses. Vous connaissez la règle, mettez vos téléphones sous mode silencieux. Et nous prenons tout de suite deux questions ici à Kinshasa. Oui, sur la droite, donnez le micro.
Merci, Albert Omba, Numérica TV. Monsieur le porte-parole, vous venez de le dire qu'il y a une montée à flèche des activités des FDLR dans les carrés Walikale, Lubero, Rutshuru et Masisi. Est-ce que cela peut-il inciter le gouvernement et la MONUSCO à renégocier encore leur action commune pour éradiquer le phénomène FDLR?
Merci pour votre question. D'abord, je tiens à souligner que depuis l'année 2015, les discussions n'ont jamais été suspendues ou rompues avec les autorités congolaises. J'ai souvent aussi relevé qu'il est certes vrai que des points de divergence ont existé, mais comme je l'ai toujours dit aussi, ces points de divergence existent dans n'importe quel type de relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, conjugale ou même familiale. Donc nous avons au cours de l'année 2015 poursuivi nos contacts, poursuivi nos échanges dans le cadre de la reprise normale de la coopération militaire entre la force de la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette nécessité est impérieuse dans la mesure où vous savez que effectivement nous avons observé cette recrudescence des activités des FDLR, comme vous l'avez souligné, dans le Lubero, dans le Walikale, mais aussi dans le Masisi et un peu dans le Rutshuru vers le parc national de la Virunga. Mais aussi, nous avons aussi observé dans le Grand Nord récurrence des attaques menées par les ADF contre les positions FRDC ou contre la MONUSCO. Donc l'espoir est permis pour l'année 2016. Puisque le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Maman Sidikou, poursuit les contacts dans le cadre de la reprise de ces opérations-là, car, comme vous le savez, à deux, nous pouvons faire beaucoup, beaucoup ensemble, et il est aussi impérieux d'arrêter tous ces massacres des populations civiles, mais aussi des braves soldats congolais et des casques bleus. Oui, l'union fait la force, et nous pensons que très bientôt, nous allons reprendre ces activités-là pour neutraliser tous les groupes armés, conformément à notre mandat. Donc, nous restons ici à Kinshasa pour prendre une deuxième question sur la gauche. Oui, donnez le micro.
Merci, c'est Charles Kipingani pour le compte du journal de Gouvernance Plus, magazine du Congo central.
Oui.
Grâce à vos différentes conférences de presse, donc la population congolaise en général et la presse est informée de tout ce qui se passe sur le plan sécuritaire en RDC et puis sur d'autres aspects. Parce que le gouvernement, en tout cas, fait abstraction de cet aspect et de l'information quand même, c'est garanti par la Constitution. Mais ma question, depuis que la MONUSCO est en RDC via Monique, quel est le bilan que vous pouvez établir de la recrudescence des groupes armés en RDC? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de fois parlé de traquer les groupes armés lorsqu'on était en train de traquer le M23. Vous avez dit qu'on devait en tout cas mettre fin aux groupes armés. Aujourd'hui, dans chaque conférence de presse, on a les rapports des traques. Et aujourd'hui, le commandant, le colonel a fait allusion encore à des traques de groupes armés face à la population. Vous pouvez aujourd'hui nous dire que la MONUSCO a réussi à neutraliser et à imposer la paix, ou sinon, carrément, elle peut changer la mission de financer peut-être la presse qui a du mal à fonctionner.
Merci. Je ne vois pas le lien entre le fonctionnement de la presse et le reste de votre question, la première partie de votre question. Mais permettez que je vous dise que je n'ai pas la prétention, en quelques secondes ou en quelques minutes, de brosser tout le bilan des 15 ans de présence de la MONUSCO ici en RDC. Vous avez raison aussi de noter ou de relever que effectivement nous avons observé une recrudescence des activités des groupes armés. Mais ce que je peux vous dire de manière très concise, c'est que beaucoup a été fait dans le cadre de la neutralisation des groupes armés, ou en tout cas dans le cadre de la restriction de la liberté d'action des groupes armés, aussi bien à l'est, carrément nord Kivu, sud Kivu, mais que dans le Katanga, dans la région, dans la région du triangle de la mort, à savoir Manono, Pueto et Mitwaba. Oui, nous poursuivons ces efforts ensemble avec les FRDC, mais aussi avec l'appui conséquent des populations locales qui nous soutiennent dans ces efforts de mise en œuvre de notre mandat. Je l'ai dit d'ailleurs tantôt dans mon propos liminaire que nous avions aussi besoin de tous les journalistes et les médias pour nous soutenir, parce que c'était une œuvre collective, car la sécurité, c'est l'affaire de tous. Évidemment, ce que je peux dire pour le peu de temps où j'ai été en RDC, c'est que nous avons vu de manière progressive, depuis la défaite du M23, nous avons vu les forces armées de la République démocratique du Congo monter au front et prendre toutes les dispositions pour neutraliser les groupes armés avec le soutien de la MONUSCO. Évidemment, une période transitoire aussi a été observée, notamment la suspension de notre coopération réelle sur le terrain, mais je l'ai dit aussi tantôt que l'espoir était permis pour cette année pour que les choses reprennent. Évidemment, cette période transitoire que je viens de souligner a été mise à profit par les groupes armés aussi pour étendre leurs activités et poursuivre la commission des actions négatives contre les populations civiles. C'est pour cela que nous sommes déterminés à reprendre cette coopération et à mettre un terme à tout cela. Je ne sais pas si le lieutenant-colonel Martin Amouzou, qui est à Goma, peut compléter un peu ce que j'ai dit. Mon colonel.
Merci Félix. Sinon que il faudrait qu'on organise un voyage de presse pour les journalistes, surtout ceux de Kinshasa, pour qu'ils arrivent dans l'est du pays pour remarquer, constater ce que la MONUSCO fait effectivement sur le terrain. Merci.
Oui, donc merci. Nous restons donc à Goma à la suite de cette intervention du colonel Amouzou. Donc Goma, vous avez deux questions. Oui.
Oui, merci. À vous. Le micro, présentez-vous.
Oui, c'est le canal Kinshasa Télévision et Tech Magazine. J'ai une petite question pour le colonel Amouzou. Où peut-on localiser actuellement les ADF dans les territoires de Beni après les attaques perpétrées par FRDC conjointement avec la MONUSCO? C'était aux zones de Mavivi. Merci.
Merci.
Oui, mon colonel.
Merci beaucoup. Nous savons que les ADF opèrent dans les territoires de Beni. Et vous dire exactement là où sont les ADF, c'est violer nos consignes militaires. C'est-à-dire, on ne peut pas donner la position des ennemis. Si je vous donne la position des ADF, ils seront que nous savons là où ils sont. Et ça va vraiment perturber nos opérations. Merci beaucoup.
Oui, merci. Peut-être une deuxième question à Goma.
Je suis désolé que Bambara n'est pas dans la salle, mais hier il a répondu à notre radio que il a réagi à notre radio que les armes qui ont traversé à Kavivi aussi Kivu.
Un peu de silence, on ne vous entend pas bien. Un peu de silence, s'il vous plaît, ici dans la salle. Reprenez votre question, s'il vous plaît, à Goma.
Bon, c'est parce que vous ne voulez toujours pas des historiques, mais là, d'une manière brève, est qu'à Kavivi, il y a une source policière qui nous a informé qu'on a intercepté des armes qui venaient du Burundi. C'était des armes qui allaient dans la base de la MONUSCO. Bambara a positivement réagi que c'était certainement des armes qui étaient pour des gardes rapprochés des officiers de la MONUSCO. Alors moi, ma question aujourd'hui, c'est celle de savoir comment la police peut intercepter une cargaison d'armes non accompagnées et puis les services, c'est que un service, je peux dire policier, Alors, pour, ma question de savoir, est-ce que réellement, si, à part le plan militaire, est-ce que vous collaborez? Est-ce que ce n'est pas dire qu'il y a une fracture totale entre vous et le gouvernement? C'est ça la question.
Permettez-moi de lever tout de suite l'amalgame qui est posé dans le cadre de cette affaire, juste pour rappeler les faits. Effectivement, comme vous le savez, depuis le 31 décembre 2015, le bureau des Nations Unies qui était déployé au Burundi a fermé ses portes suite à la requête des autorités de ce pays. Et tout le matériel qui était prépositionné ou positionné au niveau du Burundi devrait être rapatrié au Congo, et ce, suite à un accord entre les autorités burundaises, les autorités congolaises et la MONUSCO. Il ne s'agit pas d'armes, il s'agit de munitions qui sont destinées à la protection rapprochée, aux éléments de la protection rapprochée, donc aux éléments de la sécurité. C'était des conteneurs contenant des munitions qui devraient être rapatriées. Ces conteneurs ont bel et bien traversé tout le système administratif et douanier du Burundi. C'est au niveau de la frontière congolaise que des problèmes se sont posés, mais cette situation a été rapidement réglée lorsque les autorités qui étaient en charge, ou en tout cas qui étaient informées de toute cette procédure et qui avaient donné les accords et les avals nécessaires, sont intervenues pour remettre les choses en ordre. Ce matériel est aujourd'hui prépositionné ou disposé au niveau de la MONUSCO à Uvira. Donc c'était juste pour relever cet amalgame et aussi remettre les choses dans d'autres perspectives. Donc nous restons à Goma. Non, nous revenons ici à Kinshasa. Oui, sur la gauche pour prendre... oui, une dame est là. Oui, passez le micro. Oui.
Sonia Rollet de RFI, j'ai deux questions. La première, est-ce que vous avez renforcé vos patrouilles?
Vous avez droit à une question.
On a le droit à une question. D'accord. Bon, est-ce que la MONUSCO a renforcé ses patrouilles à la frontière avec le Burundi et notamment a mis en place de nouvelles positions? On parle de Kamanyola, Nyamwama, entre autres, mais quatre postes frontaliers supplémentaires. Et pourquoi?
Oui, merci pour cette question. D'abord, il faudra remettre la question dans son contexte. Le contexte, c'est la situation politique et sécuritaire qui prévaut aujourd'hui au Burundi et qui est à la base d'une instabilité qui a provoqué le déplacement des populations burundaises vers le territoire de Fizi, particulièrement à Lusenda, où un camp de déplacés ou de réfugiés a été mis en place et qui est en train d'être géré en parfaite coordination avec le HCR, la Commission nationale des réfugiés et aussi les autorités locales. Je voudrais, avant même de répondre à cette question, d'abord saluer la solidarité aussi exprimé par les populations de Lusenda, parce que nous nous rendons compte que ce sont les premiers acteurs humanitaires sur le terrain qui ont accepté non seulement d'accueillir leurs frères et sœurs du Burundi qui sont dans le besoin, mais aussi qui sont allés plus loin, qui leur ont accordé non seulement l'hospitalité, mais aussi ont accepté de partager les ressources déjà insuffisantes en leur possession avec leurs frères venant du Burundi. Donc cette situation au Burundi impacte de manière négative sur la sécurité au Congo. Et c'est dans ce cadre-là que, aussi bien du côté de la MONUSCO que du côté des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi de la police nationale congolaise, que des dispositions ont été prises pour non seulement sécuriser la frontière, mais aussi sécuriser et porter assistance à ces réfugiés qui sont aujourd'hui hébergés au camp de Lusenda. Nous avons à peu près 13 500 réfugiés dans ce camp-là, et il faut aussi au passage saluer les efforts qui sont mises en œuvre par les autorités en charge de ce camp-là, au plan sécuritaire, au plan administratif, au plan de l'assistance de manière générale. Maintenant, il est aussi évident, Sonia, que les plans de contingence ont été depuis très longtemps élaborés au niveau de la MONUSCO, mais aussi en parfaite coordination avec les autorités congolaises. Et juste pour rappel, l'ancien commandant de la force, le général Carlos Alberto dos Santos Cruz, avait effectué une visite à Lucinda, et hier et avant-hier, le général Jean Bayou, qui est commandant par intérim de la force, aussi s'est rendu à Lucinda, juste pour, premièrement, tester le système sécuritaire, les mécanismes mis en place pour prendre en compte la sécurité de ces gens à Lucinda, mais aussi des plans de contingence avaient été élaborés pour prendre en compte cette menace qui pourrait venir de Lucinda. Maintenant, vous dire avec précision où est-ce que nous avons mis nos positions, je pense que pour des raisons de sécurité opérationnelle, je me garderai bien de le faire. Nous prenons une deuxième question ici à Kinshasa. Je rappelle que nous avons ici dans la salle aussi Florence Marchal, parce que vous savez, tous ces conflits ont un impact qui provoque tout de suite des déplacements de population, donc il y a des répercussions et des défis humanitaires à relever, donc je pense que aussi des questions pourraient être adressées dans ce sens-là. Oui, nous prenons une deuxième question ici. Donnez à Alain.
Merci, c'est Alain Waikani pour l'agence de presse Chine Nouvelle, CCTV. J'ai une question à vous, M. Bass. Je reviens sur le dossier Germain Katanga qui a été soulevé par le gouvernement la semaine passée. Moi, je veux comprendre à quel niveau la MONUSCO a aidé le gouvernement dans la quête pour arriver à dire que Germain Katanga, c'est lui qui avait assassiné les 9 casques bleus tués à l'époque en Ituri. Est-ce que vous avez aussi enquêté? Est-ce que vous avez fourni des éléments au gouvernement congolais, ou bien c'est le gouvernement seul qui travaille sur ces dossiers jusqu'à ce niveau? Merci.
Merci. Heureusement que j'ai aussi à mes côtés le directeur du bureau congolais des droits de l'homme. Ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que effectivement, il y a eu beaucoup de supputations, il y a eu beaucoup de rumeurs sur les nouvelles charges qui ont été mises sur la tête de Germain Katanga après son retour de la Cour pénale internationale. Ces charges ont été évoquées par le gouvernement congolais. Évidemment, je ne me permettrai pas de commenter ces charges-là, parce que il faut dire que le processus est encore en cours, le processus d'inculpation, donc probablement qu'il va aboutir à un autre procès sur Germain Katanga. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un de la Cour pénale internationale ici, mais ce que je peux dire tout simplement, c'est que nous avons eu des casques bleus qui ont été tués en Ituri. Vous avez peut-être un peu plus d'informations sur moi, et très certainement des enquêtes ont été menées par la MONUSCO et par le gouvernement congolais. Je ne suis pas en possession des conclusions de ces enquêtes-là, mais je me ferai bien un plaisir de rechercher les informations, ou en tout cas les conclusions de l'enquête menée par la MONUSCO, parce que a priori vous semblez mettre en doute les charges qui ont été formulées par le gouvernement congolais contre Germain Katanga. José, je ne sais pas si tu dis non, rien du tout, il n'y a personne de la CPI, il n'y a personne. Donc je reviendrai vers vous avec beaucoup plus d'informations sur ce sujet-là. Nous partons à Goma. Oui, Goma, vous avez deux questions. Deux questions pour
oui,
Goma, pour rester équitable.
Président de l'UNPC,
moi, c'est Raphaël Foumi, j'en suis pas le cas. Je voulais juste savoir, ma question est posée au colonel, ma question c'est de savoir où est-ce que vous en êtes avec les tractations qui avaient été entamées en son temps entre la MONUSCO et le gouvernement de la République démocratique du Congo, sinon la relance de la coopération de la MONUSCO.
Je crois que je vais prendre cette question, Martin. J'y avais déjà répondu. J'ai dit que le dialogue n'était pas rompu, il était poursuivi, et que monsieur le représentant spécial avait rencontré encore une fois le président de la République, et que les choses étaient en marche dans de bonnes perspectives, et que l'espoir était permis pour que cette coopération reprenne au plus tôt. Donc nous restons à Goma pour une deuxième question.
Une autre question à la gauche.
Je m'appelle Cosmas Mungazi, journaliste et scientifique du journal Émergence. Ma question s'adresse au colonel. Hier, nous avons effectué une descente du sud-terrain avec le service PIO. au centre de mobilisation. Curieusement, le responsable nous dira que les éléments qui viennent dans le centre viennent de 4 groupes armés étrangers et 15 groupes armés nationaux. Je voulais savoir, parmi ces groupes armés, lesquels la MONUSCO s'attaque, à part les FDL.
Oui, mon colonel.
Merci beaucoup. Il faut être ici dans vos questions. Quatre groupes armés. Quels sont ces quatre groupes-là? Il faut les nommer.
Il y a quatre groupes armés.
Oui, lesquels?
Et 15 groupes armés nationaux. Je voulais savoir parmi ces 19 groupes armés, la MONUSCO s'attaque à quel groupe armé? C'est ça la question.
De toute façon, votre question va s'adresser à la session d'hier. Mais ce que moi j'ai à vous dire, que la MONUSCO est mandatée, a été mandatée pour neutraliser tous les groupes armés en RDC. Mais en ce qui concerne les FDR, il y a le dialogue stratégique qui est en cours et nous attendons l'aboutissement de ce dialogue stratégique.
Oui.
Je ne sais pas si Félix a quelque chose à compléter.
Oui, juste pour rebondir un peu sur ce que le colonel Martin Amouzou a dit. Vous savez, généralement, nous avons, par rapport à la cartographie des groupes armés qui a déjà été élaborée par la MONUSCO, nous avons quatre groupes armés étrangers qui posent réellement le problème. Nous avons la LRA qui évolue un peu en province orientale dans la région de Dungu, Bangadi et toute cette zone-là jusqu'à Nyanya. Nous avons aussi les FDLR qui opèrent dans les deux Kivus. Nous avons aussi le FLN, qui est un groupe rebelle burundais qui évolue dans la région de Uvira. Nous avons aussi l'ADF qui évolue dans le Grand Nord. Donc voilà pour les quatre groupes armés étrangers. Maintenant, les groupes nationaux, il y a toute une panoplie. Le colonel a bien raison de dire que notre mandat n'est pas limitatif ou il n'est pas restrictif. Au contraire, il concerne tous les groupes armés qui opèrent de manière illégale en République démocratique du Congo et dont la neutralisation est devenue impérieuse au vu des souffrances qui sont infligées aux populations locales. Les groupes nationaux, vous savez, il y en a un qui naît tous les jours, qui disparaît. Je me rappelle que ici nous avons même eu des groupes Maïmaï Cheitani, des groupes Maïmaï Okapi, qui ont tous disparu. Donc voilà un peu la réalité de l'existence des groupes armés dans en République démocratique du Congo. Maintenant, nous les combattons tous selon l'ordre de priorité et ensemble, je pense que nous arriverons à mettre un terme à leurs activités négatives contre les populations civiles. Donc, nous restons à Kinshasa pour une question. Une question, s'il vous plaît, à Kinshasa, là, à la droite. Donnez le micro, oui.
Ok, merci. Théodore Ngandou pour les comptes de Radio Télé 7. La question s'adresse à José Maria.
Enfin.
Voilà. Et c'est devenu une habitude. Donc, chaque mois, le Bureau conjoint des Nations Unies s'attelle à publier son rapport. Mais nous constatons que la mission du Bureau conjoint se limite juste à la dénonciation. Et plusieurs fois, vous avez dénoncé, mais on ne voit pas des actions coercitives sur le terrain. Il y a eu la Commission nationale des droits de l'homme qui a été créée dans ce pays, mais on ne sent pas aussi les actions concrètes de cette commission-là. Alors, vous, BCNUDH, ensemble avec la Commission nationale des droits de l'homme, est-ce votre mission se limiterait seulement à la dénonciation ou bien vous pourrez passer à une vitesse de croisière?
Oui, donc, José Maria, je pense que vous avez compris, action concrète sur le terrain pour mettre un terme à tout ça, au-delà des dénonciations.
Oui. Non, merci beaucoup pour la question qui était tellement pertinente. Non, notre travail, ce n'était pas seulement la dénonciation, notre mission, ce n'était pas seulement faire le rapport. On travaille ensemble avec les partenaires étatiques et non étatiques congolaises pour améliorer la situation concrètement sur le terrain. Je peux vous donner beaucoup d'exemples de situations qui ont donné l'appui, par exemple par rapport à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme qui était formée à juin l'année passée. On a organisé déjà 4 activités de formation pour les préparer à être responsifs et les préparer pour faire les mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme pour la population congolaise. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait ensemble avec les autorités. On a donné beaucoup d'appui au dossier judiciaire à la demande des autorités civiles et militaires pour aider dans les efforts de la lutte contre l'impunité. On a parlé, je me rappelle, dans les cas, par exemple, de violences sexuelles par les FRDC. On a donné l'appui à l'investigation de la FRDC à Mousseni, par exemple. C'était octobre, novembre. Et nous travaillons ensemble avec les autorités pour donner l'appui aux investigations, aux formations, et on fait beaucoup d'autres activités qui sont dans la note mensuelle qu'on prépare et on distribue à la presse, aux amis de la presse.
Merci José Maria. Donc c'est sur cette note-là que nous mettons un terme à notre conférence de presse d'aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. À mercredi prochain.